Mémoire vive,
présentée par Juliette Sénic
et préparée par Rachel Rimmer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Ils sont les derniers survivants des camps, encore vivants aujourd'hui. La plupart d'entre eux ont été longuement interviewés dans le cadre de tournages conservatoires pour l'histoire, la mémoire et pour nourrir la recherche à venir. Mais ici, ils ne sont pas filmés sur fond noir. Ils sont chez eux ou dans leur maison de retraite, en compagnie de leurs enfants ou de leurs petits-enfants. Ils montrent ce qui compte pour eux, leurs photos, leurs écrits et même un pyjama rayé. On voit leur dernière demeure qui fut parfois la première, le temps qu'il fait dehors, leurs gestes, leur goût pour la décoration. On entend leur accent polonais, yiddish, hongrois ou titi parisien. On prend du temps avec eux, mais le rythme est enlevé. Chaque film de cette web-série documentaire est une rencontre qui dure à peine 10 minutes. La web-série Les Derniers se trouve en accès libre sur Internet.
Est-ce qu'on arrive à avoir une vie normale quand on a vécu
tout ça ? Tout à fait normal, non. La tête est un petit peu chamarrée, comme on dit.
Je criais la nuit et mon mari me secouait. Il disait, mais t'as fait un cauchemar. Et c'était toujours le camp.
Je me levais comme si on m'avait appelé à l'appel plate.
Ce cauchemar, je me voyais arriver sur cette ligne de chemin de fer, sur le quai, avec deux de mes enfants, en disant, mais comment je vais m'en sortir avec mes enfants ?
J'ai toujours peur.
Toute votre vie ?
Toute ma vie.
Vous savez, c'est des images qu'on ne peut pas oublier. Hein, la honte, l'humiliation, je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce qui passe dans la tête.
Moi, mes sentiments, je crois, sont restés au camp.
Ça me manque, ma famille.
Ouais.
Tout le monde a des familles. Moi, je ne peux pas dire ma famille. Je n'ai personne.
Vous aviez combien de frères et sœurs ?
Nous étions sept.
Sept frères et sœurs ?
Tout le monde a été arrêté, déporté.
Salut mon petit-fils grand. Notre vengeance par rapport aux nazis, ce sont mes petits-enfants et les suivants qui continuent la chaîne et la chaîne n'est pas rompue.
Je pense que cette peur de perdre encore de la famille, il l'a plus pour nous maintenant.
Absolument.
Ce qui se passe.
Moi, je peux dire que j'entends les mêmes propos que ce que j'ai entendu en 40. Hein.
On n'apprend rien de l'histoire. Moi, ça, je suis persuadée qu'on n'apprend rien de l'histoire.
Ce qui est grave, c'est l'indifférence en disant « il ne fera jamais ». Même mon père était dans cet état d'esprit, en disant ce qu'Hitler dit, ça n'a pas d'importance, etc.
Et votre père, il n'y croyait pas, quoi.
Mais beaucoup de gens.
On est dévasté en disant que ça fait 70 ans qu'on essaie de parler. Malheureusement, l'histoire, elle se répète peut-être pas de la même manière, mais ça lui ressemble étrangement.
Sophie Naoum, vous êtes réalisatrice. En 2017, vous vous êtes lancée dans ce projet soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Dans chaque épisode, on vous voit monter les escaliers, un gâteau au fromage ou bien un strudel dans les mains, comme si vous alliez rendre visite à un oncle ou une tante très âgée. Vous les questionnez sur leur parcours pendant la guerre, mais aussi sur leur retour, leur vie d'après, ce qu'ils ont envie de transmettre et ce qu'ils pensent du monde actuel. Même s'ils ont déjà raconté, ils se confient avec émotion et sincérité, sans langue de bois. Alors, la première question, c'est pourquoi ce projet aujourd'hui ?
Merci de me recevoir déjà. Pourquoi ce projet aujourd'hui ? Déjà, ben, on est sur vraiment les dernières années, malheureusement, des derniers témoins. Et donc, il y avait urgence à le faire, il me semble. Enfin, j'ai pas eu envie d'attendre que le décompte passe, comme on a fait un peu avec les derniers poilus, en se disant, voilà, il y en a plus maintenant. Et puis, merci pour votre introduction, parce que ça rend vraiment bien l'esprit dans lequel j'ai décidé d'entreprendre cette série. C'est-à-dire que, justement, j'ai eu envie de les filmer un peu différemment, de manière plus chaleureuse, plus détendue, plus directe, plus amicale. Et c'était vraiment d'abord pour ça que j'ai eu envie de le faire, pour qu'on voit cet aspect-là d'eux, qu'on ne voit pas très souvent, parce que peut-être, enfin très probablement d'ailleurs à cause de ce qu'ils ont vécu, on a tendance à s'adresser à eux déjà un peu comme à des livres d'histoire ou comme à des statues comme ça qu'il ne faudrait pas brusquer.
De manière désincarnée, en fait.
Très désincarnée. Et en fait, moi, quand j'ai rencontré les premiers témoins à l'occasion de mon précédent film Young et moi, j'ai été étonnée justement de les voir aussi plein de vie, aussi jeunes dans leur tête, aussi drôles, et je me suis dit c'est dommage, ils ont vécu tout ça, mais ils ont réussi derrière à être justement des êtres humains normaux, à se reconstruire, à avoir une vie familiale et tout, et j'avais envie qu'on voit ça d'eux, qu'on les voit dans leur vraie vie, quoi.
Et comment vous avez procédé alors ? Comment vous avez monté le projet ?
Alors, de manière très artisanale, c'est-à-dire que vraiment, depuis quelques années, en fait, j'ai décidé de sortir des réseaux classiques de production et de diffusion pour pouvoir vraiment faire des projets, les projets que j'ai envie de faire, en fait. Donc,
vous produisez maintenant également ?
Oui, je produis, j'ai ma petite société de production, il n'y a que moi dedans, il n'y a pas de locaux, enfin voilà. Après, je fais appel à des professionnels, évidemment, au niveau technique, mais ce que je veux dire, c'est que je me suis lancée, voilà, comme ça, toute seule. J'ai été voir des gens, des mécènes potentiels, à qui j'ai demandé si ça les intéressait que j'aille faire ça. Et en fait, j'ai été vraiment très touchée de voir que des descendants, en fait, me demandaient d'aller filmer les derniers et de leur poser toutes les questions qu'eux n'avaient pas pu ou n'avaient pas osé poser. Et ce qui est marrant, justement, par rapport à ce que vous disiez, c'est que j'y vais au départ, moi, naïvement, un peu comme une petite fille irait ou rendre visite à ses grands-parents. Mais en fait, à l'arrivée, le fait que je ne sois pas leur petite fille et que je sois une étrangère, ça permet beaucoup plus de choses. C'est-à-dire que vraiment, j'ai découvert cet aspect-là qu'ils avaient eu... Bon, la plupart n'ont pas parlé pendant des décennies. Et c'était souvent pour se reconstruire d'abord, faire un peu le vide, se mettre des œillères, avancer, mais aussi pour ne pas faire de mal à ce qui leur restait de famille. Et puis ensuite, pour ne pas transmettre le poison à leurs enfants.
Oui, en ça fait. C'est Élie Buzyn qui dit ça, l'un des témoins qui est filmé entouré de ses petits-enfants. Et qui dit comment peut-on transmettre un grand-père, ça prend son enfant sur les genoux et ça lui raconte une belle histoire, mais là c'est pas une belle histoire que j'avais à leur raconter, donc je pouvais pas leur raconter. Et donc lui, alors ça je sais pas si c'est dans le film, parce qu'il se trouve que moi je connais un peu son histoire, je connais un peu, il a été déporté à l'âge de 15 ans, et ce que je crois savoir, c'est qu'il a emmené chacun de ses petits-enfants quand ils ont atteint l'âge de 15 ans. C'est-à-dire, il ne leur a pas raconté avant, en fait.
Non, alors, c'est vrai qu'il faut quand même bien distinguer, enfin, souvent, eux distinguent les enfants des petits-enfants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu parler à leurs enfants, parce que c'était vraiment trop près. Mais la génération d'écart entre les enfants et les petits-enfants, ça a permis quand même pas mal de libérer la parole. Donc, les petits-enfants avaient entendu parler de ça. Enfin, c'était quand même beaucoup moins secret ou tabou ou problématique qu'avec les enfants. Et effectivement, en fait, il a décidé d'emmener tous ses petits-enfants à Auschwitz à l'âge de 15 ans, l'âge qu'il avait, lui, quand il est rentré dans le camp. Et jusque-là, il a tenu parole.
Et pour les enfants, c'est ça l'image qu'il a. Ils disent... Parler à ses enfants, c'est comme prendre une seringue et lui injecter directement de la douleur
en intraveineuse.
Et ça, j'ai trouvé cette image très forte, en fait, par rapport à cette difficulté. Et ça, quasiment tous, hein, ils sont là-dedans, dans cette difficulté de parler à leurs enfants.
Oui, mais c'est vrai que c'est... je pense que c'est vraiment une peur de leur faire mal plus qu'une difficulté à parler. Enfin, je pense que la plupart, au bout d'un certain temps, auraient pu verbaliser, mais simplement, c'est trop douloureux d'imaginer le mal qu'on a pu faire à son parent pour un enfant. Enfin, dans leur tête, c'était pas envisageable de faire ça à leurs enfants, quoi.
Mais là, avec ce projet, parce que ce sont des personnes qui ont eu du mal à transmettre dans un premier temps, mais qui l'ont fait. C'est-à-dire que Élie Buzyn est quelqu'un qui accompagne régulièrement des groupes à Auschwitz,
tous,
etc.
Quasiment,
tous quasiment. Là, il y a quelque chose de nouveau. En fait, avec cette forme courte et sérielle et accessible sur Internet, là, il me semble que vous vous adressez à un nouveau public. Auquel ?
Ah oui, complètement. Enfin, un nouveau public. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaye d'anticiper et de pallier un manque qui va arriver bientôt. En réalité, c'est-à-dire que eux vont dans les collèges et les lycées. Ils ont commencé à le faire pour la plupart il y a seulement une vingtaine, maximum une trentaine d'années, mais pas plus. Il y a eu peut-être 40 ans de silence et puis ensuite 30 ans de témoignages. Et c'est vrai que quand eux vont dans les lycées, je pense que ça fait à peu près le même office que ce que j'essaye de faire moi. Simplement, de moins en moins de témoins peuvent encore aller dans les lycées témoigner. Donc j'essaye de proposer un projet qui puisse remplacer ça à terme et en gardant cette chaleur qu'ils ont, eux, quand ils vont dans les collèges et dans les lycées, parce que c'est pas triste quand ils y vont. Enfin, c'est pas que triste. Il y a quelque chose d'humain qui s'installe.
C'est vrai que ces films-là ne sont pas des témoignages, mais ce sont des rencontres.
Oui.
C'est-à-dire que je trouve que ce qui est vraiment réussi, c'est qu'à la fois, on s'installe avec quelqu'un, on a le temps de le rencontrer, et en même temps, ça dure 8 minutes. Il y a un montage assez enlevé. Il y a des plans sur l'extérieur. À un moment donné, il y a un des personnages qui dit il neige, et puis il y a un plan sur la neige dehors. Enfin, et je me suis dit, c'est peut-être une forme aussi,
une manière d'attraper, si on peut dire, enfin de réussir à attraper les jeunes, en fait, parce que c'est, je me suis demandé si c'était pas à ce public-là, en fait, que vous
avez réussi. Ah si, complètement, si, si, c'est ce que je vous dis, tout à fait, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est d'abord pour les lycéens, enfin, pour ceux qui ont ça au programme, en fait, enfin, au moment où on va aborder cette question-là, je l'ai vraiment pensé comme un outil pédagogique accessible et sympa et qui ressemble à d'autres choses auxquelles ils peuvent s'intéresser ou qu'ils peuvent avoir envie de regarder. Moi, le fait de me mettre en scène et d'y aller et qu'on me voit arriver, c'était vraiment pas quelque chose d'égocentrique. C'était juste qu'en les prenant par la main comme ça et en mettant aussi quelqu'un un peu d'une autre génération qui fasse un peu le pont entre la leur et celle des derniers, bah, ça crée un lien qui faisait que, bah, qui me suivait, en fait. Donc, j'ai prendre par la main et je les emmène chez eux. Donc, c'était tout à fait ça l'idée, effectivement. Et la forme web, c'est un choix. Sincèrement, on a décidé d'avoir une qualité de réalisation qui soit une qualité qui est broadcast. Mais le choix du web, c'est vraiment que je voulais qu'ils puissent cliquer sur leur Facebook, sur leur téléphone à un moment donné parce qu'ils ont 5 minutes et entendre les paroles d'un déporté.
Et alors, les professeurs ont pris le relais ? Parce que vous me disiez que les professeurs se servaient aussi de cet outil.
Oui, alors.
Sollicité.
Ben oui, écoutez, moi, j'ai beaucoup de. Depuis que j'ai lancé le projet, c'est vrai que sur la page Facebook, j'ai beaucoup, beaucoup de messages. Pas vraiment de demande, puisque de toute façon l'idée c'est que ce soit en libre accès, donc ils cliquent et ils n'ont pas vraiment besoin de me demander, mais j'ai beaucoup de messages et de jeunes et de professeurs qui me disent merci parce que j'ai réussi pour la première fois à les sensibiliser, enfin en tout cas ouvrir le sujet et interpeller les jeunes et ouvrir quelque chose avec eux qui était difficile à ouvrir sans ça.
Et c'était dans quel type d'établissement ?
Mais un peu tout. Mais déjà, avec mon précédent film, donc Young et moi, j'ai beaucoup été dans les lycées le présenter et faire des questions-réponses après. Et j'ai été, je sais pas, notamment dans un collège technique des métiers du bâtiment à Calais. Et donc voilà, j'y étais, on m'a invitée, je me suis demandé un peu... Et c'était vraiment génial parce que cette entrée, ce film-là, c'était l'entrée par l'histoire d'un boxeur. Ça les a vraiment de la même manière, enfin, emmenés quelque part où ils pensaient pas aller, quoi. Parce que 20 minutes du film ou 25 minutes se passent à Auschwitz. Je pense pas que c'était des jeunes susceptibles de regarder un film sur Auschwitz, mais en étant un peu entraînés dans l'histoire de la vie d'un boxeur. Ça les a, et les questions étaient vraiment intéressantes et pertinentes et touchantes, enfin ils étaient vraiment voilà. Donc c'est vrai que je trouve qu'on a un petit peu de mal en France d'une manière générale à rendre les sujets tragiques ou sérieux un peu séduisants. Il y a une espèce de snobisme par rapport à ça et que je trouve dommage parce que quand on essaye d'être un peu plus ludique, on intéresse les gens.
Et plus vivant.
Et ça fonctionne, hein, parce que, par rapport aux écoles, je pense que pour le coup, toutes les écoles peuvent aller à Auschwitz. Et dans les voyages que la Fondation pour la mémoire de la Shoah soutient, il y a aussi beaucoup de lycées technologiques ou d'autres choses. Enfin, on est toujours surpris. Ça dépend beaucoup souvent de l'intérêt d'un prof qui après entraîne une classe. Mais ce qu'il y a de bien, c'est vraiment ces 8 minutes, parce que par rapport à un témoin qui vient dans une classe, c'est vrai que c'est long, il faut le temps d'arriver, et il y a tout ce côté de préparation des classes, et en fait, les professeurs, parfois, ont du mal à organiser la venue d'un témoin sur un temps long, alors que là, avec 8 minutes, on voit tout à fait ça dans une heure de cours, comment c'est facile, et de m'avoir 8 minutes, et d'exploiter, parce qu'il y a aussi, il faut le dire, des images d'archives, il y a des choses, résumez à chaque fois le parcours aussi de la personne.
C'est vrai que vous la contextualisez en fait avec des images d'archives de l'époque.
Oui, on essaye d'apporter pas mal d'éléments historiques sans être repoussoir, mais ce qu'il y a aussi, à mon sens, c'est que c'est un patchwork, c'est-à-dire que quand vous rencontrez un déporté qui vient dans la classe, c'est formidable, mais c'est une personne qui vient 2 heures avec sa vie, son témoignage. Mais quand vous avez un florilège comme ça d'une quinzaine de témoins dans lesquels vous pouvez aller piocher parce que un tel ou une telle va vous être plus sympathique pour des raisons qui vous sont propres, d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui va vous accrocher. Et c'était l'idée, c'est-à-dire qu'avec des petits formats de 8 minutes, ils apprennent plein de choses sur plein d'aspects de cette histoire-là. Certains vont plus parler de Drancy, d'autres plus d'Auschwitz, d'autres plus d'après, d'autres du Lutetia, d'autres des cauchemars. Enfin, il y a plein de thématiques qui sont abordées. C'est pas forcément très systématisé. Donc, en fait, à l'arrivée, moi, je trouve que c'est assez riche, enfin, tout ce que j'arrive à y mettre. En tout cas, je suis contente de...
C'est à chaque nouveau témoin. Alors, c'est vrai qu'il y a, voilà. il y a deux questions qui reviennent souvent. Enfin, il y a une affirmation, quand même, que plusieurs d'entre eux disent, c'est « l'histoire ne nous apprend rien ».
Oui.
Alors ça, c'est parce que ça, c'est paradoxal, en fait. Enfin, il y a quelque chose de compliqué dans le message qui est délivré aux élèves, enfin, aux jeunes. C'est, ils disent tous, l'histoire ne nous apprend rien, elle se répète. Et beaucoup d'entre eux parlent de ce qui s'est passé en 2015, où ils ont entendu à nouveau morts juifs sous leurs fenêtres, et ça leur a rappelé les Allemands. Donc c'est vrai que... Lorsque vous demandez à Ginette si son témoignage a eu un impact, elle répond « Pas du tout, moi j'y crois pas, on n'apprend rien de l'histoire. » Or, Ginette, c'est quelqu'un qui avait fait la visite à Auschwitz avec Tinius, qui a été abattu à Charlie un an après. Donc, pourquoi continuer à témoigner ? Ces films-là posent cette question. C'est compliqué, en fait, de répondre à ça.
C'est un peu une mise en abîme de mon travail. C'est-à-dire qu'à un certain moment, je me dis, mais est-ce que vraiment... pourquoi je le fais ? Et en fait, je crois que c'est un peu pour les mêmes raisons qu'eux. C'est parce qu'il y a... Alors, pour moi, un plaisir à les rencontrer, un devoir. Eux ont une vraie forme de devoir par rapport à ceux qui sont parvenus. Oui. Donc, ils se doivent de le faire, ne serait-ce qu'en hommage à ceux qui ont disparu, même s'ils ne pensent pas vraiment fondamentalement changer le monde. Je pense qu'à un moment donné, ils y ont cru quand même, quand ils se sont mis à témoigner. Le plus jamais ça. Enfin, voilà, ils ont cru que ça aurait un impact. Je pense que la plupart sont assez déçus du résultat.
Oui. Enfin, il y a ce juif hongrois, enfin Nicolas Ross, d'origine hongroise, qui dit « Ce qui m'importe, c'est que ça n'arrive plus aux autres, même à n'importe qui. » Donc ça, on voit que lui, il croit. D'ailleurs, il a écrit...
Il a écrit pendant des années, il a essayé de décortiquer la mécanique nazie au plus près pour que les gens comprennent comment ça fonctionne et qu'on évite de répéter les mêmes mécanismes. Mais il dit que s'il l'a fait, c'est pour que ça n'arrive plus à personne d'autre. Et en même temps, il dit qu'il est désespéré de ne pas avoir pu faire plus et de ne pas avoir pu changer le monde. Donc, il n'y a quand même pas vraiment de... Enfin, il est quand même assez défaitiste aussi, Nicolas Ross. Mais c'est vrai que ce qui est important... dans l'idée de... Enfin, pour moi, hein, évidemment, mais dans l'idée de le faire, au-delà de ce qu'on apprend de l'histoire ou quoi, c'est leur exemple, l'exemple qu'ils donnent de ce qu'ils ont fait de leur vie après la guerre. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important et qui peut changer quelque chose, enfin, à mon sens. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont repartis absolument de rien, qui sont sortis du Lutetia avec un ticket de métro et qui ont reconstruit une vie. Et ça, pour le coup...
C'est un message qui peut être important à entendre pour des jeunes aujourd'hui.
Je pense que c'est un message fondamental pour les jeunes aujourd'hui, de dire... On peut réussir sa vie en partant de moins que rien, comme dit Victor Perraia, qui n'est pas encore diffusé, mais il dit « on n'est pas reparti de rien, Sophie, on est reparti de moins que rien. On avait le typhus, on n'avait plus de famille, on n'avait plus d'appartement, on n'avait plus de rien. » Et on l'a fait. Et ça, je pense que c'est une leçon de vie et de courage extrêmement importante aujourd'hui. Et peut-être de tout temps, mais en tout cas aujourd'hui.
Oui.
Et puis c'est ce qui fonctionne aussi beaucoup dans les témoignages en classe. Hein. Souvent, les enfants, les élèves sont impressionnés de voir les témoins, enfin de comment, enfin quand ils se figurent qu'ils avaient le même âge qu'eux et qu'à cet âge-là, ils ont réussi à surmonter les pires épreuves.
Mais c'est vrai que là, en fait, il y a une présence incarnée et vivante et qui change du témoignage sur fond noir qui est là pour délivrer un contenu. Mais néanmoins, il y a un moment donné qui m'a frappée. C'est Ginette qui d'abord dit on n'apprend rien et qui raconte que quand elle accompagne les visites à Auschwitz, elle dit si vous promenez à Birkenau, vous ne voyez rien. Donc moi, quand j'accompagne un groupe à Auschwitz, je donne les détails, je donne les sons et du coup, en fait, cet endroit revit. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que pour que il faut une présence in situ pour donner du sens au lieu et à l'histoire. Et donc, on se dit, quand ces personnages vont disparaître, même s'il y a le film, il n'y aura pas leur présence in situ. Alors, j'ai pensé, en fait, à un procédé auquel, visiblement, fait recours la Fondation Spielberg, c'est de créer des hologrammes. Enfin, je veux dire,
c'est pas la Fondation Spielberg, mais effectivement,
oui, c'est pas...
C'est-à-dire qu'en fait, c'est la présence vivante
Alors pas forcément, il me semble pas forcément in situ, c'est-à-dire que moi quand j'ai tourné mon précédent film en grande partie à Auschwitz, c'est le sentiment que j'ai eu, c'est-à-dire que sur place là-bas, on a l'impression qu'on va aller là-bas, se retrouver là-bas et essayer de commencer à toucher du doigt quelque chose, et en fait moi j'ai eu l'impression de m'en éloigner.
Oui.
Donc ça c'était très troublant, et alors je pense que ce qu'elle veut dire c'est que elle quand elle va à Auschwitz, elle fait revivre les pierres effectivement, mais je crois pas qu'elle dise qu'on est obligé d'aller là-bas pour comprendre quelque chose. Non, par contre, on est obligé d'avoir la parole de quelqu'un qui va mettre de la vie dans tout ça. Donc, ça sera peut-être autrement, effectivement. Mais c'est vrai que, bon, honnêtement, pour moi, aller à Auschwitz sans quelqu'un qui raconte, c'est... Enfin, moi, j'ai eu l'impression j'ai eu un grand sentiment de frustration. C'est-à-dire que je me suis dit que c'est à ce moment-là que je me sentirais près de l'histoire, et je ne me suis jamais sentie aussi loin. Je me sens plus proche quand je reverrai visite à Ginette chez elle. Donc, je pense que c'est un peu ça qu'elle veut dire aussi.
Oui, ce qu'elle voulait dire. En fait, elle disait, l'histoire ne sert à rien, on n'apprend rien. Mais néanmoins, quand j'accompagne des gens à Auschwitz et que je fais revivre le lieu, ben, tout d'un coup, ça devient... Ça s'incarne.
Oui, c'est pas pour autant que ça va changer le monde, mais ça fait comprendre des choses.
Ça fait comprendre des choses quand même. Ouais.
Mais là, c'est complémentaire. C'est-à-dire les déportés eux-mêmes se sont filmés à Auschwitz. Et donc, ça, c'est un autre projet, un autre site qui s'appelle Mémoire Demain, où on peut les voir in situ, expliquer lieu par lieu ce qu'ils ont fait. Mais je crois que là, votre projet, on est dans autre chose. Effectivement, on est dans des gens vivants qui sont. Et on n'est pas que dans le pédagogique et que dans l'expérience. On est dans une transmission d'une vie, dans un rapport individuel.
Oui. Et puis,
d'un vivant à un
d'une
vivant.
Grande humanité, oui. Moi, j'ai vraiment été troublée, mais sincèrement, par leur grande humanité. C'est-à-dire que je n'ai jamais senti la moindre revanche, haine, enfin... Je sais pas, je trouve que vraiment, c'est des gens particulièrement... humains, ça veut rien dire, mais enfin, qui ont vraiment... compris quelque chose sur la vie, quoi.
Oui. Enfin, il y en a dont on sent qu'ils portent une grande tristesse encore aujourd'hui.
Ah, mais complètement, ça n'empêche pas. Non, ils ont une grande part d'ombre aussi, hein. Oui, je dis pas que...
Merci Sophie Naoum. Je rappelle que votre série de témoignages courts s'appelle Les Derniers, qu'elle a été soutenue par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et que vous en ferez dimanche prochain à 11h au Mémorial de la Shoah une présentation, avec une projection de 3 épisodes inédits en présence de vos témoins, Armand Bulva, Lucette Gechtzen-Blodzen et Victor Peraya. C'était Mémoire Vive. Deux adresses pour nous réécouter, www.mémoirevive.net et radio-rcj.info, ainsi que sur l'appli RCJ.